Initiation à la musique tunisienne.
La musique tunisienne, où faut-il la chercher pour la trouver sous sa forme la plus vivante et la plus naturelle?
Elle est de toutes les fêtes. Elle accompagne toutes les cérémonies que les familles organisent pour tout événement marqué d'une certaine solennité. Par exemple, le mariage, la naissance d'un enfant ou sa circoncision sont célébrés avec un cérémonial réglé par la tradition aussi minutieusement qu'un rite.
Et ce qui vaut pour la Tunisie vaut pour le Maghreb, l'Afrique du Nord arabe et musulmane. En art, le Maghreb est héritier des traditions de l'Espagne musulmane de la fin du Moyen Âge. C'est ce qui lui donne une unité géographique et sociologique assez distincte des autres parties du monde arabe et autres contrées musulmanes.
Oui, et les mêmes circonstances de la vie y sont partout entourées, surtout dans les villes, d'un même cérémonial traditionnel, originaire de l'Espagne arabe du Moyen Âge, et s'il y a des différences de détails dans certaines localités, elles ne sont que les variantes d'une même tradition.
Pour aller au plus simple, nous prendrons pour modèle des festivités tunisiennes le cérémonial en honneur à Tunis. C'est dans le folklore tunisois que nous puiserons les spécimens les plus typiques des chants de ces fêtes de circonstance. Il n'est pas de meilleur exemple que le mariage.
Ce qu'il y a de plus typique et pittoresque à la fois dans le mariage se déroule dans la maison familiale de la mariée. C'est l'application du henné sur les mains et les pieds de la future épouse.
Cette application du henné est une véritable action propitiatoire. Elle se déroule donc dans une atmosphère de joie avec chansons de circonstance accompagnées par la derbouka, ce petit tambourin de céramique au corps cylindrique terminé par un renflement, au son bien timbré, si cher aux jeunes filles, et des salves de youyou d'allégresse. Mais pourquoi le henné?
Le signe vert des feuilles du henné, arbuste du paradis, est un symbole d'espérance qui appelle la bénédiction et qui purifie. La femme tunisienne gardera le souvenir des deux événements qui jalonnent le chemin de sa vie. C'est d'abord la célébration de ses fiançailles, c'est ensuite la fête de 3 jours qui précède sa nuit de noces et qu'on appelle la période de préparation.
Et c'est là que se place la cérémonie du henné?
Oui, la coutume exige que le jour de ses fiançailles, la mariée ait les mains et les pieds teintés à la pâte de henné en présence de la mère ou de tout autre proche parent de son futur époux. Celle-ci offre à la fiancée, au nom de l'époux, un cadeau de valeur comme pour la dédommager du sacrifice qu'elle aura consenti en présentant les mains et les pieds pour la cérémonie qui les enchaînera pour la vie. C'est la cérémonie du mlek, appropriation au nom si symbolique.
Et le henné dans tout cela?
La coutume veut que, durant la période de 3 jours dite de préparation qui précède la nuit de noces, le henné soit appliqué 3 fois aux mains et aux pieds de la mariée, avec un cérémonial bien déterminé dans ses grandes lignes par la tradition, aussi bien pour les actes que pour la musique et le chant.
C'est maintenant que nous allons voir intervenir la hannana, Il faut la présenter, cette imposante matrone qui a tant de prestige dans le milieu féminin.
Songez que la Hanen a fait office, en plus de son rôle de maîtresse des cérémonies pour la mariée et ses dames d'honneur, de garçon de bain, manucure, pédicure, maquilleuse et coiffeuse. On l'appelle d'ordinaire Mashta, coiffeuse, ou Hanen, ce dernier nom faisant prévaloir la fonction la plus marquante de son sacerdoce, celle qui consiste à manipuler et appliquer la pâte de feuilles de henné séchée et réduite en poudre.
La Hanena est donc 3 jours dans la maison paternelle de la mariée.
Elle est là, officiant et cajolée de toutes les femmes. C'est elle qui procède dans le hammam du quartier, puis à la maison, à la toilette complète de la mariée. Elle épile la face, la gorge et les membres à l'aide d'un sirop très épais de jus de citron, étalé sur la peau, puis ensuite arraché d'un mouvement brusque de l'index de la main droite. Pour les parties secrètes, elle se sert d'une pâte faite de chaux vifs et d'orpiment légèrement imbibé d'eau.
C'est une technique autant qu'un art.
Et tout cela minutieusement réglé. Elle teint la paume des mains et la plante des pieds avec de la pâte de henné et la chevelure et les sourcils avec une bouillie noire faite de noix de galle et de clous de girofle torréfiés puis réduits en poudre, au pilon et passés au tamis. Elle rehausse le teint avec des pâtes de blanc de céruse et de cinabre et noircit les cils à la poudre d'antimoine brûlée.
Ce sont les plus antiques soins de beauté du monde toujours en vigueur.
Oui, et il en est d'aussi pointueux que ceux des salons de beauté modernes. Ainsi, le harkous, un onguent noir et odorant obtenu en calcinant un vase clos dans un petit creuset en terre cuite recouvert d'une plaque en céramique, de la noix de galle, des clous de girofle et de la hadida, ou éclat de fer calciné, dont on recueille le sublimé au-dessous de la plaque sous forme d'une substance onctueuse et adhésive, eh bien, ce harkous, la hanena s'en sert pour tracer sur le front de la mariée, à l'aide d'une tête d'épingle, un double trait très fin, allant d'une tempe à l'autre, puis sur cette double raie, elle aligne une rangée de petits points. Sur les deux joues et le menton, sous la lèvre inférieure, elle dessine un chevron isolé ou 4 chevrons disposés en losange. Ses moustures sont tenaces et ont un arôme discret mais persistant. Les gencives même et les lèvres n'échappent pas aux soins de la matrone. Elle en relève le rouge en les frottant avec de la fibre de noyer. L'émail des dents en devient plus blanc et la laine en est parfumée.
Et bien entendu, pendant tout cela, musique et chant ne cessent de se faire entendre.
Tout dire de tous les rôles que joue la Hanena. Elle habille, elle conseille, elle recommande, elle annonce la bonne conclusion du mariage.
Mais c'est l'application du henné qui demeure la mission la plus importante. Nous nous attardons sur cette cérémonie du mariage. Il faut dire qu'elle se déroule généralement avec le concours d'un petit orchestre de musiciens d'un certain âge, juifs ou aveugles musulmans, qui exécute et chante à cette occasion des airs consacrés par la tradition, avec des intermèdes de musique classique ou de chansons à la mode du jour. L'orchestre comprend un luth, un violon, un tar ou tambour de basque et une darbouka. On chante l'hymne au prophète et les nombreux couplets du chant du henné, décrivant avec force détail les charmes physiques et les qualités morales de la fiancée. Mais décrivez-nous cette application du henné.
C'est le soir. Après le dîner, on a installé la fiancée sur un siège, surélevé d'un coussin, les pieds appuyés sur un autre coussin ou un petit tabouret, le buste raide, bien droit, les mains posées à plat sur les genoux, les yeux baissés sous un voile de mousseline blanche, moucheté de points d'or ou d'argent.
On dirait, en voyant la future mariée, livrée dans cette pose hiératique aux mains de la Hanane, une idole aux soins de la servante de son culte pour la célébration d'un rite d'honneur.
Et c'est bien d'un rite d'honneur qu'il s'agit. De chaque côté du trône, au pied duquel officie la prêtresse du henné, brûle un long cierge de cire blanche, fiché dans le col d'un vase ou dans un grand chandelier, décoré de torsades, de bandes de papier, les unes rouges ou vertes, les autres dorées ou argentées, toutes ornées de franges, les deux colonnes flamboyantes flanquent la mariée en signe de protection. Derrière le trône brillent les lumières d'un grand siège terminé par cinq branches en éventail, représentation de la main de Fatima, la bienheureuse fille du prophète, dont l'évocation suffit à conjurer les maléfices et les sorts que jetteraient les envieux.
Et comment procède la Hanane?
Avec un couteau d'argent, elle entame la boule de pâte brune posée sur un plateau de cristal. Puis, après avoir trituré du bout de l'index de la main droite le morceau découpé, elle applique avec le même doigt, en une mince couche unie, comme un peintre pour une gouache. Elle en enduit les ongles de la patiente, la face interne de ses doigts et la paume de ses mains. Puis les ongles et la plante des pieds. L'enduit s'arrête sur la paume des mains au niveau d'une ligne brisée allant de la base de l'auriculaire à la naissance de la deuxième arcade palmaire et de là à la base du pouce.
Que de patience il faut pour la future comme pour la matrone.
Oui, mais quel événement! Je ne dois pas oublier de vous dire que dans la main droite de la jeune fille, la matrone a préalablement placé une pièce de monnaie d'or fournie par la mère ou la représentante du fiancé. Cette pièce laissera une trace en blanc sur la paume de la main lorsque la pâte, son effet de teinture accompli, aura été enlevée. Ce petit disque blanc sur champ brunâtre est appelé taba ou sceau.
Juste appellation d'un signe destiné à marquer une appropriation, sceller une liaison.
جيبوا الحنة في صحن أخضر تحني العروسة وجملة المحضر
جيبوا الحنة بالله تحني العروسة وكل من في الدار
جيبوا الحنة
Et nous en venons au jour de la noce, par tradition un jeudi ou un lundi, jour faste. C'est la mère de l'époux ou une de ses parentes qui emmène la mariée vers sa nouvelle demeure, enveloppée d'un voile de soie blanche, signe de son émancipation de la tutelle paternelle. Mais avant de quitter la maison de sa famille, la mariée, assise sur un siège, est présentée à ses pères et mères, à ses frères et sœurs et aux amis de sa famille qui viennent lui baiser le front en signe d'adieu et de bénédiction.
Ce ne doit pas être sans émotion.
Oui, la mariée est parée et fardée comme une idole dans son costume d'apparat, lourd, raide et étincelant de ses broderies de fil d'or et d'argent. Elle garde les yeux baissés sous son long voile. Son père pose le premier sur le front de sa fille, le baiser de bénédiction. La Hanène coupe dans la chevelure de la mariée une petite mèche qu'elle présente sur un plateau d'argent au père ému.
Il doit y avoir un symbole dans ce rite touchant.
Exactement. Ce petit sacrifice marque aux yeux de la mariée la rupture de sa vie de jeune fille insouciante et choyée et son entrée dans une vie nouvelle où, privée de tout privilège, elle n'aura plus qu'à compter sur elle-même, sur son savoir-faire et ses propres moyens. C'est le qasanedlel, rupture, cessation des gâteries. La hanène y fait entendre la tachika ou prière propitiatoire, protégeant contre le mauvais œil et conjurant les sorts.
Et pendant cette cérémonie, la dernière, dans la maison des parents de la mariée, l'orchestre a joué l'hymne au prophète et fait entendre le chant spécial de la pose ou présentation.
ذاك اللي بنيا أعز ما عندي هي
قعدوها قعدوها في بيتها كل شمعة ركزوها ذاك اللي بنيا أعز ما عندي هي عروستنا تعرف تحني حنة جديدة محلى يدها في الحديدة ذاك اللي بنيا أعز ما عندي هي وجيرها حل عينه يا رعاها
Le cortège nuptial va, voiture de la mariée en tête, où se tiennent aussi la représentante de l'époux et la hanène. Il y a à côté du conducteur une négresse qui tient comme un roi mage son sceptre, le grand cierge à cinq branches, et qui éclaire la mariée sur le chemin de sa nouvelle demeure. C'était jadis un rôle porte-bonheur. Les Noirs sont considérés en pays d'islam, surtout en Tunisie, comme porte-bonheur. La négresse introduit avec la hanène la mariée dans son nouveau foyer.
La musique accueille la mariée aux accents syncopés de la tahiba de bienvenue, battue sur un tar et une darbouka dans un mouvement de presto émouvant. Cette manifestation de bienvenue aux accents d'une cadence rituelle donne à la mariée qui s'avance à petits pas, droite et raide, dans son pesant costume, l'air, l'allure et le prestige d'un pontife reçu par son peuple avec les plus hauts honneurs. Où est conduite la mariée maintenant?
Directement dans la chambre nuptiale où on l'assoit sur un siège, au milieu de la pièce, dans la pose de la tasdira ou exposition. C'est la première exposition.
Pour qui? Pour le mari, enfin.
Oui, l'époux vient voir pour la première fois son épouse pendant que le tar et la darbouka ont fait entendre la cadence de la tarhib. L'époux, sur un tapis de prière disposé dans un coin de la pièce, s'est prosterné en direction de la Mecque pour invoquer la protection divine, puis il vient soulever le voile de la mariée et lui pose sur le front son premier baiser et dit « Puisses-tu être et rester toujours mon épouse dans ce monde et dans l'autre ?»
Après cela, c'est enfin le mariage véritable ?
Ne soyez pas si pressés. Le mari et la mariée se sont vus offrir par la hanène un verre de sirop d'amande ou de rose dont ils boivent chacun une gorgée pour que leur union s'effectue sous le signe de la douceur. Puis, le mari sort et ses amis accourent à sa rencontre pour le féliciter. Celui qui l'aura embrassé le premier, parmi les célibataires, est sûr de se marier au cours de l'année. Enfin, le mari quitte la maison en fête, entouré de ses garçons d'honneur, et ne reviendra que le lendemain.
Mais pourquoi seulement le lendemain?
C'est ainsi, car dans la maison du mariage se déroulera un grand dîner d'apparat, une fête pour femmes seulement, à laquelle la mariée, est débarrassée de sa lourde tenue de brocart précieux, assistera de sa chambre, entourée des membres de sa propre famille et de ceux de ses nouvelles parentes qui ont voulu faire sa connaissance.
Pendant cette soirée, évidemment, l'orchestre se fera valoir en jouant et chantant jusqu'à l'aube des naoubas suites de la musique classique de tradition andalouse appelée malouf, avec des intermèdes de chansons à la mode du jour. Vous avez parlé de première exposition. Cela signifie donc qu'il y en a une autre.
Oui, et il y a la seconde qui a lieu le lendemain matin de ce repas d'apparat pour les femmes. La Hanen revêtira encore la mariée de sa tenue officielle et la fera asseoir sur un siège surélevé que l'on aura dressé devant sa chambre, sur une haute estrade et sous un dé d'étoffes de couleurs et de tapis précieux ainsi que de guirlandes de fleurs et de verdure.
C'est la même exposition que précédemment avec cierges et pose hiératique, mais pour qui?
Pour les familles et les amis, ici encore, l'orchestre joue un grand rôle avec les suites classiques andalouses et les chansons à la mode. Il se peut aussi qu'une danseuse rehausse la fête par quelques numéros de brio. Quand toute l'assistance est installée, l'orchestre interrompt son programme et entonne la ta'lila, ou chant d'exaltation. On célèbre d'abord le prophète, puis on exalte la mariée sur des airs traditionnels.
Que fait l'assistance pendant ce temps-là?
L'assistance, qui comprend les parents et les familles amies, ainsi même que des voisines attirées par le bruit, honore les époux en jetant des pièces de monnaie dans un plateau placé devant l'orchestre. Cette offrande servira à rétribuer en partie les musiciens, et la cérémonie de fête prendra fin aux environs de midi.
Les femmes vont enfin se rencontrer, avec ou sans musique.
Il faut encore qu'après la fête, mariées et dames d'honneur prennent une collation dans la chambre nuptiale, tandis que les dames invitées sont réunies autour d'une longue table dressée au milieu du patio pour un grand banquet de clôture de la noce.
Après cette clôture, les vœux?
Oui, les invités ont souhaité à la mariée et à ses parents une heureuse consommation du mariage, la paix pour le nouveau ménage et beaucoup d'enfants. Mal surtout. Le soir, les mariés coucheront ensemble. En prenant congé de la mariée et le jour de ses noces, toutes les dames invitées lui avaient souhaité, en langage imagé, de devenir au plus tôt mère d'un garçon, d'avoir le bonheur de voir ce garçon devenir jeune homme, préposé à son tour au mariage, et de leur offrir ainsi de nouvelles occasions de venir la féliciter et partager sa joie, et d'aller bon train les formules de prière propitiatoires.
Lorsque le ciel, ayant enfin exaucé ses vœux maintes fois répétés, la grossesse s'est déclarée, on en garde pendant quelque temps le secret. Il faut prévoir une déception toujours possible, mais aussi ne pas éveiller la curiosité des envieux, toujours jaloux du bonheur des autres et prêts à se réjouir des déceptions d'autrui. On ne garde cependant pas longtemps le secret d'une grossesse. Bientôt, les jeunes filles de la maison en auront décelé les signes, et elles qui, occupées d'ordinaire leurs loisirs en chantonnant les airs à la mode, prendront un malin plaisir à chanter sur un ton solennel et contrefait l'air de l'accoucher.
On compte les lunaisons, on discute, on calcule, et les femmes doivent bien finir par se mettre d'accord sur l'opportunité de s'occuper enfin de la confection du trousseau de l'enfant qui va bientôt naître. Au début de la 7e lune, on organise une petite fête familiale pour couper la layette de l'enfant. On choisit pour cela un jeudi, jour réputé bénéfique.
L'arrivée au monde d'un enfant est toujours saluée par des réjouissances qui, lorsque le nouveau-né est du sexe masculin, prennent les allures d'une véritable fête avec invitations, banquets, séances musicales pour les femmes.
La fête de l'accouchement a lieu à l'occasion des relevailles, suivant la tradition, le 7e jour à compter de la naissance de l'enfant. Ce jour-là, de bonne heure le matin, on aura fait quitter à l'accouché son lit de repos en cérémonie, tout de neuf habillé et généralement de soie rose. L'enfant aura été lavé, emmailloté et paré de la plus belle robe de son trousseau, couché sur une couverture de satin, rembourré et piqué comme un édredon.
On présente d'abord l'enfant au père, puis à ses autres parents et aux amis intimes. L'honneur de cette présentation revient d'office à la sage-femme. Elle le partage parfois avec la hanana, la matrone chargée de l'application du henné sur les mains et les pieds des mariés, cette maîtresse des cérémonies qui avait officié quelques mois auparavant pour la cérémonie nuptiale. Parées toutes les deux pour la circonstance de leurs meilleurs atours, elles font faire au nouveau-né, bien calé sur les bras de l'une d'elles, le tour des différentes pièces de la maison, la mère et toute la maisonnée leur emboîtant le pas.
Sur un ton sacerdotal, l'une des deux bonnes femmes entonne de temps à autre la formule de la traditionnelle ta'shika, la prière d'exorcisation qui protège contre les maléfices du mauvais œil.
Exaltées par cette prière, les femmes présentes y répondent par un fervent « Amen » sous la forme d'une volée de yuyu cristallins chevrotants et prolongés.
L'accoucheuse, la matrone sage-femme, est appelée en Tunisie d'un nom pittoresque, Qable, qui signifie « celle qui reçoit, qui prend livraison », comme si elle était un chef de protocole chargé de la réception solennelle des hôtes de marque. Elle se donne d'ailleurs bien les allures d'un tel personnage d'importance. Aussi, sa présence sous le même toit que la hanena constitue-t-elle pour la maîtresse de maison un problème de préséance difficile à résoudre sans diplomatie.
والقلب حار
Précédée de la Qabla et de la Hanana, dont l'une porte le nouveau-né dans ses bras comme un joyau exposé dans un écrin de soie, l'accouchée fait le tour de la maison aux accents cadencés d'une tarhiba triomphale.
Cette procession solennelle, ou marche triomphale, est destinée à remercier les esprits de la maison pour leur protection et leurs bons offices, et surtout à leur présenter leur nouvelle hôte. Aussi se déroule-t-elle avec la gravité d'une cérémonie liturgique. Au seuil de chacune des portes du logis, le petit cortège s'arrête un instant. Chacun murmure la formule « Bismillah » au nom de Dieu, par laquelle débutent les chapitres du Coran et que le musulman prononce au moment d'entreprendre toute action de quelque importance. Une pincée d'encens est jetée sur les charbons ardents d'un brasero devant chaque porte.
Le circuit propitiatoire accompli, la mère reprend possession de son enfant et regagne le lit sur lequel planera encore jusqu'au 40e jour le charme magique et mystérieux de la conception. Le soir de cette fête du 7e jour, Seba, un orchestre pour femmes composé de musiciens israélites ou de musulmans aveugles, récréera les invités par des suites de musique classique de tradition andalouse, entrecoupées de chansons à la mode. Le programme sera ouvert par la Ta'lil Tnefs, l'exaltation de l'accouché, dont la tradition est fort ancienne.
Bye. عينه ملبوسه يا عمته بشاره يطاطي عليه ويبوسه غنيت لبت السابع مرة في كربوسه
بابنا يا مقبولة يا بشرة يا ميمونة بشر ابني ما مقام حاجة وتوبة مقبولة بشر ابني ما مقام حاجة وتوبة مقبولة
حين قامت تطلب يوم الخميس عشية حطت شعرها وقفت تونسية لك الحمد يا مولانا قلت قاسة ولا سوية
ربامنا يا مقبولة يا بشرة يا ميمونة حشر ابني ما تضل حاجة وتوبة مقبولة حشر ابني ما تضل حاجة وتوبة مقبولة
يا قابلة يا سوسية كل ما خذيت شوية ونقوم من نهار السابع ونخرجك مكسية ليك الحمد يا مولانا خبزت لسولة سوية
Accueilli à son arrivée en ce monde en musique, c'est également en musique que l'enfant tunisien est invité à fermer les yeux pour dormir. On sait que les airs de berceuse sont particulièrement tenaces. Ils résistent beaucoup plus que les autres airs populaires aux modifications résultant de la transmission orale. Nous allons vous faire entendre un air de tradition fort ancienne qui a bercé le sommeil de plusieurs générations de petits citadins tunisiens, aussi bien dans les milieux populaires que dans les familles bourgeoises. Dors, dors, puisses-tu dormir, ta petite joue comme un coquelicot. Dors, dors, ô toi qui es la lumière de mes yeux.
نني نني ننيتك وباسم العالي سميتك إلى حياني ليك ربي يا ولدي خليك عروس في بيتك يا سعدي يا سعدي وشكون عنده ما عندي عندي حرة القنديل عندي هكل وليد ولدي يا عينين السردوك وجيب النوم يرحم بوك جيب النوم واجري بيه لوليدي باش ينني بيه يا عينين الحجلة وجيب النوم بالعجلة جيب النوم واجري بيه لبنيتي باش تنني بيه بنتي يا عزيزة عليا وعزلي من ضو عينيا أعز من ثوب الحرير يا بنتي إلى لبسات ورومية ولدي ولدي دلال ملال وبيك ربح وراس المال وليدي سكينة الفضة وبيك نجاحر العديان يا ربي وعطيتني دار المعلمة والكتاب، الله لا يغلق في وجهي باب، بجاهك يا عزيز ويا جواد. لا 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 ويا غصن الحبق يتلالا وعاقرة وجابت التوامة. الله 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 ولا إله إلا الله، حن الحنين يا ولدي وما يفرج كان الله. سعدي بيك وسعدي بيك ونطلب ربي ويخليك، ان شاء الله لامي ما تفرح بيك.
Dès que pousse à l'enfant sa première dent, la mère songe à célébrer l'événement par une fête enfantine. Le jour fixé pour cette cérémonie est généralement le jeudi, jour faste du calendrier tunisien, pour tout événement que l'on doit célébrer avec une certaine solennité. Ce jour-là, les invités viennent de bonne heure, dans l'après-midi, apporter une animation inaccoutumée au foyer de l'heureuse mère. La préséance va évidemment aux enfants, car ils ont à jouer le premier rôle dans cette cérémonie, dite du Kerkouche, nom dont l'étymologie est inconnue.
Vêtu de ses plus beaux atours, l'enfant est assis par terre au centre d'un tapis et les enfants viennent l'entourer en cercle, tout en attirant son attention avec un jouet nouveau ou un objet quelconque pour éveiller sa curiosité. On verse sur la tête de l'enfant le contenu d'un panier plein de fruits secs. Alléchés par cette manne imprévue, les enfants se jettent dessus en se bousculant, chacun cherchant à en ramasser le plus possible. Noix, amandes, noisettes, raisins secs, fruits confits, pois chiches grillés, dragées et autres friandises, toutes disparaissent en peu de temps dans les poches et les replis des vêtements des enfants.
Les femmes présentes poussent des youyou d'allégresse, chacune essayant de couvrir la voix des autres. La mère de l'enfant jette une poignée d'encens sur les charbons ardents d'un brasero. Cet encens, composé de feuilles et de racines de plantes aromatiques et d'une espèce de gomme, renferme quelques grains de sel dont l'explosion dans le feu est censée être l'écho de celle du mauvais œil, l'œil malfaisant. Une femme parmi les plus âgées, s'arrogeant le privilège de bénir la cérémonie, élève de temps à autre la voix pour débiter sur un ton solennel la prière propitiatoire de la Tarchika qui déjoue les maléfices.
Ce tumulte n'a pas manqué d'effrayer l'enfant qui s'est mis à pleurer. La mère s'empresse de le prendre dans ses bras pour le cajoler et le bercer sur son épaule. La réaction de l'enfant est considérée comme ayant pour effet de hâter la poussée des dents. On croit que l'enfant qui a été l'objet d'une telle cérémonie sera, sa vie durant, favorisé par la chance.